Bonjour et bienvenue à cet autre épisode pandémique de la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est une émission divertissante et diversifiée à chaque mois ou un petit peu plus dernièrement. Là, les geekettes, on vous donne notre très humble opinion sur un produit de la culture populaire de notre choix et on jase aussi de... plein d'autres affaires! Hey, je pense que ça ne marchera plus, ça, en version Skype.
Écoute, ça va être juste drôle que ça, qu'on soit décalé. Je suis comme, vive le confinement.
Vraiment, vraiment. Hey, aujourd'hui, c'est l'épisode 66. Je suis votre animatrice, Fanny Grégoire, et je suis en compagnie de mes merveilleuses co-animatrices. Tout d'abord, on va commencer avec Martine Bisson. Bonjour, Martine!
Oui.
Allô! Martine, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler du jeu vidéo Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
Excellent! J'ai hâte d'entendre parler de ça. J'ai vu le petit trailer là, sur YouTube. C'est bien joli, alors je suis pas mal curieuse.
Ouais, ça a l'air d'un jeu pour enfants quand même, hein, quand tu regardes juste la vidéo.
Oui, mais c'est cute quand même. Mais non, je suis curieuse. Ça a attiré mon intérêt. Je vais continuer à présenter notre autre co-animatrice, Eliane Duplessis. Bonjour!
Salut, salut!
Alors, Eliane, tu vas nous parler de quoi ce mois-ci?
Eh bien, je vais parler du phénomène télévisuel qui a attaqué tout le monde comme un virus, c'est-à-dire Tiger King.
Rawr! OK, c'était mon imitation de tigre. Donc, j'ai hâte d'entendre ça aussi. On a beaucoup de choses à dire, je pense, là-dessus. Oh. Est-ce que tout le monde l'a écouté, Tiger King?
Non, pas moi.
Oh,
ah non?
Chantal?
Mais j'en ai entendu parler, puis it's enough for me.
Ben, on pourra en jaser, justement, tout à l'heure.
Puis justement, on a également notre autre co-animatrice, Chantal Lachance. Bonjour, Chantal.
Allô?
Alors, toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Mais moi, je vais vous parler de Chronicles of Crime, qui est un board game qui se prêtait bien en temps de confinement si vous vivez à deux.
Ah, on en prend note, tu sais. Déjà, je suis vraiment curieuse d'entendre parler de ça. Et de mon côté, je vais vous parler du jeu très attendu Animal Crossing New Horizon. Oui, oui, je vais vous parler d'un jeu vidéo pour ceux qui écoutent les geekettes. C'est pas habituel de ma part de jouer aux jeux vidéo, donc voilà. Avant de débuter l'émission, je voudrais aussi faire un petit shout-out à notre nouvelle Patreon, Sopelo. Alors, c'est ça, on est rendu à 12 Patreons. Bravo, merci de nous encourager. Écoutez, en temps de pandémie, c'est encore plus apprécié. C'est ça, je vous rappelle qu'au Patreon, on donne du contenu exclusif. On jase de choses qu'on jase pas d'habitude dans notre contenu gratos. Donc, ça peut valoir la peine si vous êtes curieux. Donc, on va continuer avec les nouvelles des geekettes.
Oui, ben je vous avais parlé en début d'année que je me cherchais comme objectif cette année d'avoir une nouvelle coupe menstruelle parce que je voulais sauver l'environnement. Fait que j'ai fait une petite vidéo là sur Facebook qui parle de quel site m'a aidé à faire mes recherches. D'ailleurs, le site principal, ça s'appelle Put a Cup in It. J'adore le nom du site web.
Fait c'est que vraiment
si
bon,
ouais. Ah ouais, c'est vraiment parfait. Fait que si vous voulez avoir un peu une idée de la démarche, si vous voulez suivre la même chose, ben allez voir la petite vidéo là, que je vous ai préparée sur Facebook. Je ferai peut-être un épisode 2 sur comment s'est passé mon premier mois à l'essai.
Ah ouais! Je voudrais quelque chose aussi. J'ai utilisé la même vidéo pour me procurer ma nouvelle là quelques mois aussi. Ça marche très bien. C'est un bon choix.
T'avais-tu d'autres choses à ajouter?
Ben non, mais qu'est-ce que tu as appris, Fanny?
Ben en fait, j'ai appris qu'il y avait d'autres genres. Moi, je connaissais juste deux marques de coupe menstruelle, la fameuse Divacup que toi, t'as pas aimé. Une autre marque, la Moon Cup. Mais tu sais, je savais pas qu'il y avait autant de différentes coupes. Là, je suis comme, ah ben, ma prochaine, je vais regarder ça, là.
Tu pourras faire le petit quiz en ligne.
Oui, je vais aller faire ça. Puis je vais continuer. J'ai des petites nouvelles de mon côté. Il n'y a pas grand nouvelle vu la fameuse pandémie, mais il y en a quand même une coupe. Il y a le Festival de BD de Montréal qui, étonnamment, va être un festival de BD virtuel cette année. C'est le 22, 23 et 24 mai. Vous pouvez aller voir leur site web fbdm-mcaf.ca parce que c'est le MCAF en anglais, le Montreal Comic Arts Festival. Écoutez, vous pouvez juste googler Festival BD de Montréal puis vous allez le trouver aussi. C'est la 9e édition cette année, puis habituellement, c'est toujours au Parc La Fontaine. Là, c'est le gros festival de bande dessinée qui a lieu dans le parc, mais cette année, c'est une exception vu tout ce qui se passe. Ils vont faire ça virtuellement. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails encore. Ça va être à venir, mais je trouvais ça quand même intéressant qu'ils n'annulent pas tout, qu'ils ne reportent pas tout, puis qu'ils s'essayent avec quelque chose de virtuel. Donc, à suivre, comme on dit. Puis aussi, si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, la situation pour tout ce qui est dans le monde de la bande dessinée, tout ce qui est avec les librairies, BD et tout, là, comment que les gens vivent ça de l'intérieur, j'ai écouté un podcast très intéressant de Jean-Dominique Leduc de la librairie Z, hein, notre fameux partenaire de nos lectures. On le salue. Il y a son podcast qui s'appelle « Vous avez dit BD ». Qui est le dernier épisode, là, le plus récent, le numéro 32, il parle de la réalité, de comment ils vivent ça, le milieu du livre, comment c'est géré, tout ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça super, super intéressant. Allez écouter ça, si le monde de l'édition, de la BD et du livre en général vous intéresse, c'est vraiment une petite incursion au cœur du milieu éditorial et de la distribution et de comment ça se passe en librairie. Donc, allez écouter leur épisode, très, très, très intéressant. Et puis, Chantal?
Oui, bien, tous les événements Magic physiques sont cancellés à date. Dans le fond, il y avait le Grand Prix de Toronto qui s'en venait. Il y a plein d'autres Grands Prix aux États-Unis aussi. Ça a tout été cancellé. Ils font tout ça en ligne maintenant. C'est aussi possible, en fait, vu que les petits magasins ne peuvent plus avoir leur événement durant la semaine. Donc, moi, j'ai arrêté d'aller en magasin, ça fait plusieurs semaines. Il y a des événements les vendredis soirs qui se passent. J'en ai pas essayé encore, mais avec Arena, le Wizard of the Coast essaie d'aider les petits magasins à faire des événements et essayer de ne pas mourir durant la pandémie. Mais malheureusement, il risque d'avoir beaucoup de petits magasins de Magic qui meurent durant la pandémie. Puis aussi, j'ai découvert un nouveau site pour jouer à Magic. Ça s'appelle untap.in. Puis c'est possible de jouer en ligne. Tu peux bâtir tous les decks que tu veux. Donc, c'est untap.in. Donc, untap.in. Ça coûte rien. Tu peux aller bâtir les decks. Je ne sais pas combien de temps ça va être up. Parce que normalement, je pense que c'est pas approuvé par Wizard of the Coast. Mais ils l'ont laissé ouvert. Mais j'ai aucune idée si éventuellement ils vont le fermer. Là. Mais je l'ai essayé une couple de fois cette semaine. Et c'était pas mal plaisant. C'est très bien fait.
Il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir virtuellement, j'ai l'impression. Si la crise a duré, il ne veut pas, les gens n'auront pas le choix de se retourner pour trouver leur contenu comme qu'ils consomment, dans le fond, là, de manière virtuelle. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir quand même des options, mais virtuelles qui vont sortir, mais que tout est à créer encore. Là, donc, ça va être assez intéressant quand même si c'est triste en même temps. Là.
Mm-hmm. Ça me fait penser au festival de films Fantasia, tu sais, que j'avais parlé l'année passée. Puis cet été, ils ont repoussé la date à l'automne à date. Mais je me demande que si éventuellement ils prolongent trop le confinement, puis que les gens peuvent pas se faire des grands rassemblements, peut-être qu'ils vont tout mettre en ligne. Je sais pas. Je me demande comment ça va se passer. C'est plutôt touché.
C'est assez touché. Puis tu sais, veux pas, est-ce que les gens vont vouloir se déplacer même malgré ce qui se passe? T'sais, les gens vont rester peut-être un peu traumatisés de tout ça. Et fait que on espère que tout va bien. Mais pour écouter, on va aller dans un sujet un peu plus positif. Bonne nouvelle. Je suis maintenant, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre aux auditeurs. C'est qu'en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour mon entourage, c'est une bonne nouvelle. C'est que je suis enceinte. Oh! Yay! Après 2 ans d'essai, je sais pas si les auditeurs se rappellent, mais ou s'ils étaient au courant, mais j'avais été enregistrer un podcast sur la fausse couche aux imperturbables. Moi puis mon chum Fred, on avait été faire ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça. Tout de suite après, après que l'épisode soit sorti, j'apprenais que j'étais enceinte et ça fait maintenant un petit peu plus que 3 mois. Donc, je peux l'annoncer au monde entier. Donc, voilà, c'est ma bonne nouvelle geekette du mois. Voilà. Donc, c'est ça. Écoutez, on va enchaîner là-dessus avec les chroniques.
La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario S. Visitez leur site web librairiez.com.
OK, Martine, donc tu vas nous parler du jeu vidéo Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
Oui, c'est un jeu qui m'a été recommandé par notre Patreon Guillaume parce qu'il sait comment j'aime les jeux de plateforme dans ce genre. C'était développé par Playtonic Games et publié par Team 17. C'est sorti le 8 octobre 2019 et c'est disponible sur tout le PC, PS4, Xbox One, Switch, donc pas de raison de ne pas lui jouer. Généralement, le jeu est autour de 40$, mais bon, comme la plupart des compagnies, là, en ce moment, il y a beaucoup de rabais, fait que je le vois souvent autour de 20-25$ pour la période confinement. C'est un jeu qui est très fortement inspiré là, de Banjo-Kazooie, dans le sens que Yooka et Laylee, c'est deux personnages séparés, mais qui sont un au-dessus de l'autre. Donc, Laylee aide Yooka dans son aventure et c'est aussi très grandement inspiré de Donkey Kong Country. C'est pour ça qu'on me l'a suggéré, parce que Donkey Kong Country, c'est un de mes jeux cultes. Puis, ben, c'est pas surprenant que ça se ressemble parce que c'est 6 anciens membres de Rare qui ont travaillé sur Yooka-Laylee. Donc, c'est sûr qu'ils se sont inspirés de ce qu'ils ont fait par le passé. Puis, quand je dis que ça se ressemble, là, même au niveau, c'est autant du visuel que des ennemis, la musique, tu sais, ils ont pris les mêmes genres de barils, les mêmes arrangements musicaux. Donc, c'est ça. C'est très, très fortement inspiré. C'est la suite du jeu Yooka-Laylee qui avait été sorti en 2017. Bon, j'ai pas joué au premier jeu, fait que je me lancerai pas dans les comparaisons entre les deux, mais apparemment que le premier c'était plus un jeu 3D alors que celui-là c'est un platformer 2D et demi. Bon, qu'est-ce qui est différent dans ce jeu-là, c'est que quand on commence, on est directement au boss, le capital B qui s'appelle. Puis bon, évidemment, on n'est pas capable de remporter parce que bon, on vient de commencer le jeu, fait qu'on n'est pas très bon. Donc, il y a une reine qui vient nous sauver, c'est la reine des abeilles. Puis elle nous informe que Capital B a kidnappé plusieurs des abeilles de son royaume. Et si on va les secourir, elles pourront nous aider à battre le boss qu'on n'a pas réussi la première fois. Puis pour ça, le boss aussi, il faut dire qu'il y a des très longs, un très long niveau à faire avant, ce qui fait que c'est très difficile à compléter. Fait que c'est ça, on se promène dans le monde pour aller sauver chacune des abeilles parce que quand on va faire le Impossible Lair, quand on se fait toucher, c'est une abeille qui prend le hit à notre place. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que si on décide de faire 10 niveaux, mais on peut avoir comme 10 invincibilités, mais si on n'est pas encore assez bon puis on veut faire 20 niveaux avant d'aller faire le boss, ben c'est ce qu'on fait. Je vous suggère très fortement d'aller chercher toutes les abeilles parce que le Impossible Lair est très, très, très difficile. Donc, c'est ça. C'est un platformer, comme je disais, 2D et demi, ce qui veut dire que les graphismes sont 3D, mais le platforming, il est 2D. C'est un jeu de plateforme très, très classique. Qu'est-ce qui le distingue des autres? C'est comme j'expliquais, il y a Laylee, qui est la petite chauve-souris, puis nous, on est Yooka, le lézard. Donc, si on se fait toucher la première fois, c'est Laylee qui prend le hit, puis là, elle se met à voler puis à paniquer. Si on réussit à la rattraper avant qu'elle disparaisse de l'écran, mais elle reste avec nous. Sinon, ben, la prochaine fois qu'on se fait toucher, on meurt puis on doit recommencer le niveau. Ils ont mis aussi plusieurs checkpoints dans chacun des niveaux parce que c'est quand même assez difficile. Puis après 5 fois qu'on meurt, on nous suggère, si on veut, de pouvoir sauter cette section-là du niveau puis continuer plus loin. Donc, peut-être une option pour toi, Fanny.
Ah oui, c'est ça. Moi j'écoute ça. Là. Quand il y a des options pour vivre plus longtemps, avoir plus de vie, là, je suis là.
Puis sinon, ben ça se contrôle quand même bien là, au niveau du platforming, mais je vous dirais que moi, il y a les rebonds sur les ennemis sont souvent nécessaires parce qu'il faut comme sauter dessus pour atteindre des endroits un peu plus hauts, surtout pour des secrets. J'ai eu beaucoup de difficulté à contrôler le rebond. Fait que c'est peut-être un petit endroit là, où le platforming n'est pas aussi tight là, que dans d'autres jeux. Pour passer d'un niveau à l'autre aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on est dans un univers 3D. Puis, il y a quelques puzzles à résoudre. Puis, en fait, les puzzles, qu'est-ce qu'ils vont permettre? C'est comme je vous disais, il y a 20 niveaux au total, mais chacun a une face A et une face B. Donc, le puzzle va nous permettre d'obtenir la face B du niveau. Il y a aussi plusieurs toniques qui sont cachées. Les toniques, à quoi ça sert ça? Bon, c'est des habiletés qui peuvent nous aider justement à passer chacun des niveaux. Ça peut être comme grimper plus vite, obtenir plus d'argent quand on tue des ennemis, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont un peu plus traites, comme ta manette est brisée. Donc, mettons, si tu vas à gauche, ça va à droite, et puis des choses comme ça.
Bon, c'est un peu comme de la drogue, ça, les toniques.
Un peu, exactement. Puis, tu sais, puis pourquoi, dans le fond, on voudrait s'en mettre des plus difficiles? Mais c'est ça, c'est que si tu mets des toniques qui rendent ton niveau de difficulté plus difficile, tu fais plus d'argent. Puis si tu en mets qui t'aident, ben là, tu vas faire moins d'argent dans le niveau. Puis, tu peux pas prendre trop de drogue, Fanny, parce que tu peux en utiliser seulement 3 maximum en même temps.
Moi, je suis pour la modération, à bien meilleur goût, de toute façon.
Puis, c'est vraiment un bon lien que tu fais parce qu'il y a aussi beaucoup de toniques que c'est juste des habillages visuels. Puis, il y en a que c'est comme mettre tous les niveaux multicolores. Puis,
OK, ouais, je vois le genre, là.
Exactement, ouais. Ou en full pixel ou en cyan, tu sais, des choses comme ça. Mais par contre, ça, c'est un petit défaut du jeu. Si tu mets des toniques d'habillage visuel, ça crée un lag. Fait que, tu sais, ça te donne pas envie de les utiliser depuis de les acheter, ces toniques-là.
Malheureusement.
Exactement. Puis là, avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est acheter des toniques. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas gratuits. Puis, on peut aussi acheter des indices qui vont nous donner comment faire pour trouver justement les toniques sur la map. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un peu, je trouve, un des avantages du jeu. Tu sais, ils sont cachés, là, mais. C'est comme dans le sens, faut que tu fasses un petit pow à un endroit random sur la carte. Fait que, tu sais, à moins de payer des indices, il y en a qui sont juste comme tout simplement introuvables. Fait que c'est un peu désagréable à ce niveau-là. Bon, moi qui aime les secrets qui sont le fun à faire, c'est que dans chacun des niveaux, il y a 5 pièces de cachet, là, des genres de pièces de monnaie. Ils sont quand même bien cachés, c'est un peu comme les secrets à la Donkey Kong, là, qu'il fallait que tu tombes dans certains trous ou tuer certains ennemis, des affaires comme ça. Puis ces pièces-là, eux, ils servent à payer pour ouvrir plus grand la map de base. Là. Donc, si tu n'as pas le choix d'en trouver pour pouvoir débarrer puis aller à certains autres niveaux. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le visuel. Là. C'est très coloré, c'est agréable à regarder, c'est vraiment vibrant là, comme couleur. C'est pour ça, tantôt, je disais un peu, ça, on dirait un comique télévisuel là, pour enfants. Là. C'est vraiment un plaisir pour les yeux. Les niveaux sont aussi variés, fait que ça, c'est très agréable. C'est varié, mais tu sais, c'est pas différent des autres platformers, là, dans le sens que il y a des niveaux dans l'eau, des niveaux de glace, des niveaux de lave, fait que tout des classiques. C'est aussi un jeu qui est très difficile. Ça n'a pas l'air difficile, c'est très difficile. Je pense que, tu sais, je pensais faire ça vraiment facilement, puis rendu au troisième tableau, j'étais déjà en train de mourir. Fait que là, je comprenais pas trop ce qui se passait, parce que d'habitude, je meurs pas tout de suite dans des platformers. Puis c'est aussi tellement difficile que j'ai pas encore réussi le Impossible Lair avant de vous parler, les filles. Fait que j'ai même pas fini le jeu.
Combien de temps t'as mis le jeu?
Je sais pas, Eliane, je suis peut-être à 30 heures, peut-être. Mais le Impossible Lair, c'est parce que ce qui est fâchant, puis il aurait pu améliorer un peu ça, c'est que, comme je vous disais, il y a du platforming à faire, puis entre chaque section, il faut que tu battes le boss. Puis il y a différents... le boss devient évidemment de plus en plus difficile. mais il n'y a aucun checkpoint dans le lair. Donc, si tu meurs après 15 minutes, ben il faut que tu recommences du début. Ce qu'ils auraient peut-être pu faire, puis je comprends qu'ils n'ont pas mis de checkpoint dans le sens que c'est parce que les abeilles, c'est un hit qu'ils prennent à ta place. Fait que ça serait pas cool que tu recommences à un checkpoint full énergie, mais ils auraient pu mettre un... Tu recommences à ce checkpoint-là avec le nombre d'abeilles qui te restait. Puis si tu n'es pas satisfait du nombre d'abeilles qui te restent, mais là, recommence.
Donc, dans chaque niveau, il n'y a pas de checkpoint, c'est ça que tu dis?
Non, juste le Impossible Lair.
Ah, OK, comme le dernier niveau, dans le fond.
Exactement. Ben le dernier niveau, mais que tu peux faire, comme je disais, tu peux le faire dès le début avec aucune abeille pour t'aider, ou tu y vas quand ça te tente. Mais dans lui, c'est ça. Puis les toniques aussi que tu as trouvées, mais tu peux pas les utiliser dans le Impossible Lair. Fait que ça, c'est un autre petit défaut du jeu parce que, tu sais, ça te donne pas, comme là, il me manque des toniques que j'ai pas trouvées, mais je m'en fous de pas les avoir trouvées parce que de toute façon, je pourrais pas les utiliser pour le boss de la fin, tu sais. Fait que, ben, c'est un peu ça.
C'est un peu difficile, là, quand même, là.
Ouais, exactement. Puis, tu sais, mais. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir, tu sais, je voulais toujours y retourner, c'est un jeu qui est agréable, puis si vous avez aimé les Donkey Kong Country, ben c'est sûr que vous allez aimer Yooka-Laylee, là, un peu la même chose si vous avez aimé les Banjo-Kazooie aussi, tu sais, c'est vraiment très inspiré, puis c'est un jeu vraiment agréable, mais je le suggère pas à des débutants en platforming, là. Mais ben c'est ça. Mais comme je vous disais, je l'ai toujours y retourner. Fait que si t'es à 20$, je pense que ça vaut quand même le coup. Mais ça peut être frustrant là, si vous n'êtes pas très patient. Là.
Puis il est disponible sur quelle plateforme déjà?
Toutes les plateformes qui existent.
Oh, wow, OK. Puis est-ce que c'est un studio indépendant qui l'a fait?
Ben oui, je crois que c'est indépendant. Playtonic Games. Puis mais c'est les deux seuls jeux qu'ils ont fait, c'est ça. Yooka-Laylee puis Yooka-Laylee Impossible Lair.
OK. Donc, c'est vraiment leur petite licence là, qui sont connues pour là, un petit peu plus.
Exactement.
Parfait. Ben, je trouve ça super intéressant comme plateforme.
Je t'avais regardé en même temps. Regardé en même temps, puis il est sur Steam. Là. Fait que même moi, je pourrais jouer, même si je n'ai pas de console, puis je fais juste jouer sur PC.
Oh oui, c'est vraiment disponible sur tout. Mais il faut des bons skills de platforming. Mais sinon, écoutez, on n'arrête pas de le dire, c'est le confinement, on a le temps. Donc, il faut prendre ça aussi pour les développer.
Oui, parfait. Ben, avez-vous des questions pour le jeu, pour Martine?
Non, pas de mon côté.
Non, parfait, moi, j'ai pas de questions, mais je le mets sur ma wishlist. Là, il est sur ma wishlist sur Steam.
C'est bon, puis c'est vraiment cute, ça a l'air vraiment mignon aussi comme jeu, même si c'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de défis, mais comme tu dis, Martine, tu y es retournée souvent, donc c'est positif. Donc, merci beaucoup pour cette belle chronique, Martine.
Amusez-vous bien!
Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes! Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires! Cite au patreon.com/geekettes. Geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geekette avec un S.ca. geekette avec un S.ca.
Donc, Chantal, tu nous disais que tu allais nous parler d'un board game, Chronicle of Crimes.
Oui. Donc, ce jeu-là est fait par Lucky Dot Game. C'est une compagnie polonaise que je ne connaissais pas. Et ça, Yann avait acheté ça, ça fait un petit bout qu'il l'avait acheté, puis on a décidé de l'essayer durant la pandémie. Ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, avant que je parle du jeu, la compagnie, elle s'est donnée comme mission de transformer des jeux vidéo populaires en ligne en jeux de table. Entre autres, si on va sur leur site internet de Lucky Duck Games, ils ont Fruit Ninja Combo Party en board game, là, un jeu de table. Là. Fait que dans le fond, leur équipe a de l'expérience à créer des jeux vidéo en ligne, des jeux de table. Mais je vous parlerai pas de Fruit Ninja Combo Party. J'ai assez joué à ce jeu-là et c'est assez. Mais donc, ce Chronicles of Crime, c'est un jeu coopératif d'enquête criminelle qui se déroule à Londres. Donc, on joue le rôle d'un enquêteur qui a un mystère à résoudre, qui peut être un meurtre, un vol ou d'autres crimes inimaginables. Une partie prend à peu près une heure et demie. Ça fonctionne par scénario, puis des fois, les scénarios, ils ont plusieurs chapitres. Dans le fond, c'est qu'il y a des liens entre eux, mais dans le même scénario, les chapitres vont avoir des liens entre eux. Il faut retenir certaines informations. Et sinon, les scénarios, en général, ils ne sont pas liés entre eux, donc on peut les jouer indépendamment. Et ce qui est bon à noter, c'est que le jeu est traduit en français. Et aussi plusieurs autres langues, évidemment. Donc, c'est à peu près un 12 ans et plus. C'est quand même un jeu un peu compliqué, donc c'est pas recommandé pour les jeunes enfants. Ça joue 1 à 4 joueurs. Par contre, je l'ai essayé à 2 seulement, donc avec mon chum. Ça semble être le nombre de joueurs idéal. Donc, jouer juste à tout seul un board game, personnellement, je trouve ça plate. J'aime mieux jouer au moins avec quelqu'un. Et 3 à 4, ça semble que il semble que certaines personnes s'ennuieraient, qu'il n'y aurait pas assez d'action. Donc, à 2, ça serait le chiffre magique, qui est idéal en période de confinement, quand on est pris à la maison avec son conjoint comme moi.
Donc, à moins que les deux soient mauvais perdants.
Mais c'est coopératif. Puis, vous allez voir, tu perds pas tout à fait. Mettons que tu n'es pas bon, tu ne perdras pas tout à fait. Je vais y revenir plus tard dans ma chronique. Et même pour les mauvais perdants, on peut s'en sortir. Donc, le jeu, il est facile à installer. Donc, il y a un plateau de jeu qui s'appelle le tableau des évidences. Il y a 4 jeux de cartes, donc 4 decks, qui a les locations, en fond, les endroits, comme mettons, il va y avoir Scotland Yard, il va y avoir un port, il va y avoir un musée, peu importe. Ensuite, il y a un deck pour des personnes à rencontrer. Il y a un deck d'évidences, en fond, des items. Puis, il y a aussi des items spéciaux. Donc, c'est très simple. Et aussi, on a 4 contacts médico-légaux qui nous aident dans nos enquêtes. Donc, on va avoir un médecin qui est responsable des autopsies, un criminologue, un hacker, puis une scientifique de la science. C'est important. Mais en fond, ça a l'air assez ordinaire la façon que je vous en parle maintenant, mais la particularité du jeu, c'est qu'il y a une réalité virtuelle. Et en fond, ça utilise une app sur un téléphone. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là sans le téléphone ou une tablette. Donc, l'application s'appelle Chronicles of Crime. Elle est disponible sur Google Play et le App Stores. Et c'est que, dans le fond, la façon que ça lit le jeu de table et l'app, c'est qu'il y a des codes QR sur les cartes qu'on va aller scanner avec le téléphone. Donc, on va avoir une interaction. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pas possible de jouer sans le téléphone. Ça prend l'app, mais l'application est gratuite. Donc, comment ça se déroule? C'est que, bon, tu vas placer le jeu physiquement tu t'installes pour jouer au jeu. Après ça, tu ouvres ton application, tu choisis un scénario. Et, bon, la plupart du temps, tu commences à Scotland Yard, qui est comme le poste de police. Puis là, le chef de police te rencontre et te dit, bon, mais il y a eu un vol au musée. Rends-toi là. Il va te donner quelques informations. Et là, tu pars avec ça. Donc tu as très peu d'informations au début et au fur et à mesure, tu te promènes entre les locations, tu rencontres des gens, tu trouves des items et à chaque fois que tu veux interagir, dans le fond, tu scannes le code QR d'une carte. Dans le fond, ça, comment que ça lit aussi des cartes qu'elle choisir avec l'app, c'est que chacune des cartes va avoir soit un numéro ou soit une lettre. Donc là, tu vas aller chercher ta carte dans ta boîte. Mettons, il va te dire va au musée, bon, c'est la carte J et sur place, il va avoir le colonel Moutarde qui t'attend, mais c'est la carte 14. Fait que là, tu vas placer ça sur la table et tu vas scanner la location pour te déplacer à la location. Et une fois arrivé sur place, tu scannes la carte du colonel Moutarde qui va te parler. Il va avoir des choses à te dire sur le vol qu'il y a eu. Donc, c'est très bien fait. L'app, c'est très bonne. J'ai pas trouvé aucun bug à date. J'ai joué, sans 3 ou 4 scénarios et il n'y a pas eu aucun bug là, puis ça navigue très bien. Et une option que moi j'ai trouvé très intéressante, c'est possible de chercher des évidences. Comme mettons, tu arrives sur le lieu du crime, ben, tu peux chercher cette location-là. Et dans le fond, ça fait que tu cherches en 3D sur place. Donc, tu te lèves debout et avec ton téléphone, tu peux te promener, regarder au plafond, les murs, le plancher, comme quand on visite une maison virtuellement, là, les affaires, les effets 3D. Donc, c'est la même chose qui se passe. Et là, tu regardes et tu dis à voix haute, OK, ben je vois un fusil. Donc, la personne avec qui tu joues va pouvoir aller chercher la carte qui correspond au fusil dans le deck d'items. Tu as 40 secondes pour fouiller la pièce, donc tu n'as pas un temps infini non plus. Donc, il faut que tu te dépêches, essayer de noter les petits items. Et bon, c'est possible d'avoir une petite lunette qu'on met avec le téléphone, donc ça vient en option. Par contre, moi, je l'ai essayé, puis mes yeux, ils sont tout croches, je vois rien. Donc, moi, je l'utilise pas. C'est possible de pas l'utiliser. Et mon chum, lui, il l'utilise. Ses yeux se portent très bien. Donc, moi, les miens,
quand
ça marche pas.
Quand tu dis une lunette, c'est-tu comme une lunette physique?
Oui, c'est une lunette physique qui s'attache au téléphone. En fond, puis c'est très facile à installer. Il y a un petit support avec 2 petites lunettes. Puis là, tu l'installes dessus, puis tu regardes dedans. Puis là, tu vas te promener de haut en bas, de gauche à droite pour regarder. Puis ça te donne l'effet 3D.
Mais il y a pas un gadget à part?
Oui, il est acheté à part. Mais oui, ben il y a un avantage, c'est juste plus beau parce que tu as l'effet 3D. Moi, je suis pas capable de le voir, mes yeux ils capotent, ils aiment pas le 3D.
C'est ça, mais tu passeras pas à côté d'indices si tu l'utilises pas, mettons.
À date, non.
À date, j'ai pas passé à côté de quelque chose. Ça peut être juste ton attention. Aussi, des fois, il y a tellement de choses à regarder dans une pièce que ça se peut que tu passes à travers. Ça fait juste plus beau parce que tu as l'effet 3D qui vient avec. Sauf que ça se peut que ça marche pas pour vous comme que ça marche pas pour moi. Donc, c'est ça. Donc, au fil du temps, tu vas aller dans plein de... Tu sais, tu vas visiter vraiment plusieurs endroits. Tu vas rencontrer beaucoup de gens. Éventuellement, tu sais, tout le monde te donne... C'est comme une vraie... Ben, je sais pas à quel point, je connais pas les vraies enquêtes, mais ça t'amène dans plein de directions. Puis, éventuellement, il faut que tu choisisses. Tu appliques ton jugement, dis « OK, telle personne, je pense pas qu'elle a raison, devrait aller dans telle direction et tout. » Et à la fin, quand tu es prêt, tu peux résoudre le cas. Donc, tu retournes au poste de police et il y a l'option « résoudre le cas ». Et là, ils vont te poser plusieurs questions. Qui tu penses qui a fait le vol ou le meurtre ou pourquoi tu penses qu'il l'a fait avec quelle affaire? Ils te posent un paquet de questions et là, il faut que tu scannes les cartes selon tes réponses. Et à la fin, ben, tu es noté. Donc là, je voulais dire, pour les mauvais perdants, tu sais, c'est pas un « oui, tu l'as eu, non, tu l'as pas eu ». Tu sais, vu que tu as plusieurs critères, ben ça se peut que tu ailles 60 % ou 70 % à la fin. Fait que tu sais, tu as quand même une note. Ça, si tu es un perfectionniste et tu veux 100 %, mais ça se peut que tu sois mauvais perdant et que tu te fâches parce que tu l'as pas eu. Mais tu sais, sinon, à date, j'ai été satisfaite, même si j'ai eu aucun 100 % à date, ça s'est quand même bien passé. Et là, il y aurait peut-être une question qui pourrait venir de ça, c'est… Est-ce qu'on a un temps infini? Dans le fond, on peut fouiller toutes les pièces, parler à tout le monde, puis éventuellement, on va bien trouver toutes les infos qu'il y a à trouver et résoudre, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est le fun avec l'application, c'est que, mettons, quand on rencontre le chef de police, mettons, il va être lundi 8 heures le matin, ben lui, il donne 24 heures pour résoudre l'énigme. Puis là, ben, si jamais tu résous pas en 24 heures, tu perds des points pour ça. L'application te permet de suivre en temps. Donc, quand tu te déplaces d'une location à l'autre, ça fait que ça compte du temps. Ça va te prendre, je me souviens plus par cœur, c'est peut-être 15-20 minutes ou une demi-heure, ça compte dans le temps. Tu parles à quelqu'un, tu lui poses des questions, ça va compter 15 minutes de plus. Tu appelles ton équipe médico-légale, ça te compte une minute de plus. Si tu fouilles une pièce, à chaque fois que tu fouilles la pièce, ça prend du temps. Donc, ça t'avance dans la journée et l'application suit ce temps-là. Donc, c'est bien de ce côté-là. Tu n'as pas à suivre le temps. Tu n'oublieras pas tes jetons de time, mettons que normalement, on compte manuellement dans des board games. Là, l'application le fait pour nous, donc c'est bien de ce côté-là, là, tu peux pas comme tricher si tu veux l'application de calcul. Et donc voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'est un jeu très intéressant. J'aime beaucoup les puzzles. Dans le fond, c'est comme un casse-tête à résoudre si on veut. Et il est quand même pas donné. Il est 50$ et il y a 5 ou 6 scénarios de base qui viennent avec. Tu peux avoir un scénario qui vient avec les lunettes. Sinon aussi dans l'application c'est possible d'acheter d'autres scénarios, il y en a comme 3 ou 4 de plus qu'on peut acheter et sinon il y a deux expansions aussi qui sont sorties à 35$ chaque, il y a Noir et il y a Welcome to Redview et récemment une campagne Kickstarter qui s'est terminée qui a 3 nouveaux jeux indépendants donc des stand-alone, donc il y a dans le fond 1400, 1900 puis 2400, donc ça se passe dans les années 1400, dans les années 1900 et dans les années dans le futur 2400 c'est 80 dollars US, donc avec le taux de change actuel, c'est à peu près 110$ canadiens. Là, c'est quand même un peu cher pour les trois, mais c'est possible d'acheter un indépendamment de l'autre. Par contre, la campagne est terminée, mais on peut s'inscrire pour l'offre tardive, donc les late pledgers. Ça devait ouvrir le 10 avril, mais ils l'ont pas ouvert encore. Et dans le fond, ces expansions-là sont supposées sortir en mars 2021. Il est à noter, juste pour vous donner à quel point que ce jeu-là est populaire, dans cette campagne-là pour les 3 nouveaux jeux indépendants, ils ont ramassé plus $1 million US, puis il y a eu 13 350 contributeurs.
Hey, c'est beaucoup ça pour une campagne, là?
Mm-hmm. C'est vraiment beaucoup d'argent. Là. Donc, ça a vraiment bien pris. Les gens ont beaucoup aimé. Et étant donné que c'est des stand-alone, donc ça va être des nouvelles cartes, des nouvelles locations. Parce qu'on s'entend, si tu fais un scénario qui se passe dans les années 2400 au futur, ben tes cartes de location de Londres ne s'appliquent pas. Là. Donc, là, ils ont tout refait le jeu. Et même chose pour qu'est-ce qui se passe dans les années 1400 et dans les années 1900.
Ah, c'est intéressant. Je me demandais, est-ce qu'il y avait un endroit que tu pourrais suggérer, mettons, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient se procurer le jeu, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer, à part le géant qu'on connaît tous? Est-ce que tu connais d'autres endroits, là?
Oui, en fait, je ne recommanderais pas Amazon en ce moment, parce qu'étant donné que ce n'est pas un élément important pour la pandémie, donc les temps de livraison d'Amazon en ce moment, c'est un mois. Mais n'importe quel magasin local de jeux, en général, ils ont gardé leur... ils ont gardé leur activité. Donc, allez voir les pages Facebook de vos magasins locaux, puis ça se peut qu'ils l'aillent. J'en ai vu quelques-uns qui disaient backorder, mais si vous cherchez un peu, là, vous pouvez trouver en ligne. Là, j'ai vu, je pense que le Valet de cœur devrait l'avoir. J'ai des magasins ici à Longueuil que je vois, je sais qu'eux, ils l'avaient aussi. Donc, regardez en ligne, là. Vous pouvez sûrement le commander puis l'avoir en moins de temps que le 1 mois qu'Amazon, même si Amazon le vend probablement moins cher.
Ouais, puis je pense qu'on peut aussi les appeler, là. Je sais qu'on a souvent pas tendance à faire ça, mais des fois, ça peut être assez rapide quand t'appelles directement chez le commerçant. Il peut te dire, puis il peut te le mettre de côté au pire, puis te l'envoyer,
ouais, peu importe. Exact. Ouais. Je sais pas des fois s'ils ont fermé physiquement le magasin, des fois le numéro, il y a personne qui va rejoindre, mais si on leur parle sur, mettons, leur page Facebook, ils vont répondre sur Facebook.
Là. Ouais.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais il y a des critiques qui ressortent de, il y en a qui n'aiment pas le fait que ce jeu-là utilise une application téléphone. Il y en a vraiment qui trouvent que ça l'enlève le fait de jouer un jeu de table. Moi, j'adore l'aspect que ça leur a amené. Ça te fait sauver du temps un peu à fouiller des règles, à lire. T'as juste l'app qui se dirige puis qui calcule ton temps. Là, je trouve ça vraiment bien, ce côté-là du jeu. Ben évidemment, ça n'a pas une très grande rejouabilité parce qu'une fois que tu résous un crime, tu peux pas t'en rejouer. Tu pourrais le refaire pour essayer de voir si tu te diriges autrement, si tu découvres des nouvelles choses, mais à date, moi, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Là, je referai pas de nouveau des scénarios que j'ai déjà fait. Donc, c'est pas seulement un jeu que tu peux revendre après.
Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant, justement, qu'il soit avec application, parce que je trouve que ça rend ça peut-être plus accessible, parce qu'il y a des gens que ça leur fait peur, des fois, tu sais, justement, les gros board games, puis des manuels, puis tout ça, fait que, tu sais, justement, ça les distingue à ce niveau-là.
Oui, le livre de règles, c'est un petit feuillet de 2-3 pages, là, c'est pas très long à faire, il y a des vidéos en ligne qui disent, mais c'est très, très simple, là, comment jouer, là, c'est pas...
Moi, j'ai une curiosité, en tout cas.
Oui, j'ai l'impression que tu vas t'intéresser. J'ai l'impression que ce jeu-là va peut-être se ramasser chez toi, mais qu'on ait fini de jouer.
Ben, c'est comme un vendredi policier, mais où je ferai partie de l'action.
Oh, que oui, tu vas aimer ça, là. Ouais.
Quand tu dis vendredi policier, c'est quoi ça, Martine?
Ah, ben c'est que Canal D, je sais pas si ça existe encore, là, mais les vendredis, c'était comme toutes les affaires de true crime. Fait qu'il y avait comme, mettons, un tueur si proche, après c'était autopsie, après c'était dossier mystère. T'sais, c'était vraiment toutes des émissions de true crime, puis ils appelaient ça les vendredis policiers à Canal D, et j'étais complètement accro.
C'est drôle, ça. OK, parfait. Mais oui, c'est vrai que le jeu d'enquête que tu parles, Chantal, ça fait penser à un tout ça, là, mais moi, ça m'attire beaucoup. Puis comme tu as dit, Martine, avec l'application, c'est rapide, là. Tu n'as pas à tout te taper le feuillet d'instruction, donc je trouve ça intéressant. Hey, merci beaucoup, Chantal, pour cette belle chronique. T'avais-tu quelque chose à ajouter?
Non, c'est tout. C'est tout. C'est un excellent jeu, je l'ai beaucoup aimé.
Donc, Fanny, c'est à ton tour maintenant et tu nous parles de quelque chose qui, normalement, c'est pas ton sujet que tu nous parles le plus régulièrement. Donc,
non,
là,
non.
Jeu vidéo, confinement oblige, qu'est-ce qui se passe? De quoi nous parles-tu?
Écoute, j'ai reçu un cadeau qui s'appelle le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons. C'est de Nintendo, disponible sur Nintendo Switch. Moi, vous savez, je n'ai pas de console. C'est toutes les consoles à mon copain. Je ne joue quasiment jamais aux jeux vidéo. C'est très rare. Je veux juste jouer au truc plus rétro habituellement ou, tu sais, je veux plus regarder mon copain jouer. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est un peu la faute à Twitter. J'ai des amis sur Twitter qui jouaient beaucoup à Animal Crossing New Horizon, qui est le nouveau jeu qui vient de sortir là, de la série Animal Crossing. J'ai appris qu'il y avait cinq différents jeux de cette série-là depuis 2001. Donc, ça fait 20 ans quasiment que cette série existe sur Nintendo. Donc, j'ai appris plein de choses. Puis c'est ça, j'ai vu des gens qui m'en parlaient beaucoup. Je trouvais ça tellement mignon. Je trouvais ça super cute, des animaux. Tu te promènes, ça a l'air relax. J'étais comme, écoute, je suis intéressée. Tu sais, ça pourrait m'intéresser. Puis mon copain m'avait dit, mon copain est un designer de jeux vidéo. Puis il m'avait dit, tu sais, moi j'avais dit, ah, moi je suis pas une gamer. Ça m'intéresse pas de jouer aux jeux vidéo. C'est du passé, tout ça. Puis là, il m'a dit, Fanny, il existe un jeu pour tout le monde. Ça dépend c'est quoi ton genre. Puis c'est drôle parce que tu sais, je devrais savoir ça. Moi, habituellement, je m'intéresse à la bande dessinée. Puis moi aussi, je dis toujours ça, comme il y a un genre pour tout le monde, il faut juste que tu t'y intéresses. Et je crois que j'ai trouvé le genre qui m'intéressait. Puis c'est drôle parce que j'ai beaucoup jugé Animal Crossing au début. Alors, tout d'abord, je me suis installée avec mon copain, il m'a montré comment ça fonctionnait. Parce que, veux pas, la manette, là, pour moi, c'est un défi en tant que tel. Moi, là, je suis vraiment le genre de fille qui va chercher ses pitons sur la manette. Je sais pas c'est où le R, le X, le Y. Fait que j'ai dû apprendre tout ça. Puis c'était vraiment gênant de me regarder jouer au début, la première fois que j'ai touché. Je suis comme, ah, je sais pas comment ça fonctionne. Fait que mon copain m'a expliqué un peu le fonctionnement. Puis là, j'imagine que Martine doit être un peu en train de rire. Parce que j'étais vraiment déboussolée. Puis moi, je suis un peu perfectionniste dans la vie. Fait que, si je suis pas bonne au premier coup, ben là, je panique un peu. Donc, c'est ça. Mais je me suis pratiquée. J'ai joué avec mon copain. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que, mais finalement, c'est pas si pire. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi Animal Crossing pour les gens qui savent pas c'est quoi. Donc, c'est un jeu de simulation de vie et de gestion un peu. Il y a sûrement un autre thème, là. Je sais pas si Martine, t'es un... Moi, ça m'a fait penser un peu comme peut-être aux Sims ou... Puis comme j'ai beaucoup jugé parce que
Je pense que c'est un bon terme, Fanny. Je dirais que c'est un jeu de simulation, effectivement.
Parfait. Donc, puis là, je me disais, mais voyons, pourquoi est-ce que je voudrais jouer? Je voudrais faire ça dans ma vie virtuelle quand je le fais déjà dans ma vraie vie. Tu sais, j'ai pas besoin de planter des choses ou d'aller pêcher des poissons, ce qui sont toutes des choses que tu peux faire dans Animal Crossing. J'ai jugé un petit peu au début. J'étais comme, pourquoi je voudrais faire ça? Mais il y a quelque chose de vraiment très, très attirant là-dedans. Donc, tu as un petit personnage humain qui décide d'aller vivre sur une île avec il va avoir deux autres personnages anthropomorphiques parce que c'est ça. Tu es le seul humain sur cette île-là. Jusqu'à date, là. À date, j'ai joué environ une quinzaine d'heures, quand même, en quelques jours. Pour une fille qui se dit qu'elle n'est pas une gamer, c'est quand même pas pire. Puis, sur l'île, il va y avoir aussi Tom Nook. C'est un raton laveur propriétaire / banque. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi je dis ça. Puis, il va y avoir deux acolytes aussi, Tommy et Timmy, qui l'aident. Donc, tu as comme quelques personnages et toi-même. Puis, toi, tu t'en vas vivre sur cette île-là. Et sur cette île-là, tu dois faire la gestion des ressources. Donc, tu vas avoir un arbre à fruits qui va donner des fruits, tu vas avoir des branches, tu vas avoir aussi de l'argent à gérer. Puis tu vas aussi avoir, plus tu fais des activités, tu vas accumuler des points Nook. C'est un petit peu comme des Air Miles. Donc, tu peux avoir en échange mettons, de tes Air Miles, tu peux avoir... qui sont tes points Nook dans le fond, comme Tom Nook, ton espèce de gérant là, de l'île, ton espèce de banque. Donc, tu vas pouvoir échanger des points, tu vas pouvoir échanger de l'argent contre des items, parce que au début, tu as une tente sur ton île, mais éventuellement, tu vas avoir une maison. Et qui dit que c'est un peu comme dans la vraie vie, tu sais. Au début, tu as un petit appartement. À un moment donné, si tu ramasses de l'argent... tu vas finir par avoir un condo, je sais pas. C'est un petit peu comme dans la vraie vie, mais en allant accélérer, puis tout le monde est gentil sur ton île. Est-ce que ça vous parle jusqu'à date?
Ben, je sais c'est quoi, mais à chaque fois, je me dis toujours, ben, tu nous diras à la fin, là, mais oui, est-ce que ça vaut 80$? C'est ça qui freine, moi.
Parfait, je vais continuer. Donc, c'est ça. La partie, ben, c'est sûr que, est-ce que ça vaut 80$? Ça dépend. C'est un jeu. Ce qui est particulier avec cette édition-là, c'est que tu joues en temps réel. Fait que en fin de semaine, on enregistre les geekettes, c'est Pâques. Donc, il y avait un événement de Pâques, mais qui n'appelle pas Pâques parce que c'est une fête religieuse. Ils appellent ça Bonne Idée, je crois. Puis c'est vraiment comme tu as comme un événement comme en temps réel. Aussi, quand tu joues, tu vas être selon l'heure et la journée. Mettons si tu joues le soir. Mais ça va être le soir. Mon île va être dans le soir. Puis je vais trouver des insectes. Puis parce que tu peux attraper des insectes, des poissons et tout. Je vais trouver des insectes que je ne trouverai pas nécessairement quand je joue durant le jour.
Donc, c'est vraiment cool, ça.
Oui, oui, c'est super cool. Écoute, moi, je suis un peu vendue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Mais je suis un petit peu vendue. Puis c'est ça. Puis donc, si ça vaut le 80$, bien, à date, moi, j'ai joué une quinzaine d'heures. Puis j'ai l'impression que c'est un jeu... il y a un gros hype en ce moment, puis c'est un jeu qu'il va créer des événements. Comme le prochain, ça va être... Là, il y avait le Bonne Idée, mais le prochain, ça va être Earth Day. C'est le jour de la Terre. Puis tu vas... Supposément qu'il va y avoir un jour pour l'Halloween, un jour pour Noël. Donc, différents événements avec différentes quêtes. Parce que, comme par exemple, le Bonne Idée, Il y avait des œufs de Pâques un peu partout, d'ailleurs, sur les internets, la communauté de Animal Crossing. On fait beaucoup de blagues par rapport aux œufs qu'ils n'arrêtaient pas de trouver. Puis aussi parce qu'il y a un personnage qui apparaît, qui est un gros lapin, qui fait un peu peur à certaines personnes parce qu'il est un petit peu too much. Mais là, bon, il est un petit peu mieux qu'il était, là. On dirait que les... Parce que c'est ça, le jeu est en développement un petit peu constamment, vu que c'est en temps réel que ça se joue. Puis qu'il y a des petits événements, fait que ça crée un hype. Puis j'ai l'impression que tu peux... Ce qui est le fun, c'est que tu peux... Tu sais, moi, je pourrais décider de jouer pendant toute la semaine. Puis là, je pourrais décider, OK, ben je vais arrêter de jouer. Puis je vais y jouer, mettons, dans deux semaines. Mais tu sais, il va y avoir des choses qui vont avoir changé. Tu sais, il n'y a pas de... Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que c'est très relaxant. Il n'y a pas de presse à jouer non plus. Puis je te dirais même que j'ai remarqué que plus j'y jouais, mettons, dans une journée, je pense que le max d'heures que j'y ai joué, c'est peut-être 5 heures, ce qui est énorme. Là. Ça n'a aucun sens là, pour moi. Puis je te dirais qu'après 5 heures, il n'y avait plus grand-chose. J'aurais pu continuer à faire des choses, mais j'étais comme... Il y avait moins d'intérêt. Donc, tu as vraiment l'intérêt à laisser ton jeu de côté puis d'y revenir le lendemain ou 2 jours plus tard. Puis là, il y a plein de choses qui arrivent. Donc ça, c'est quand même intéressant pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi, là je mets des gros guillemets, voyager, aller voir tes amis. C'est relié en ligne. Donc si je veux
c'est aller... C'est vraiment intéressant présentement dans le cadre de la pandémie.
Ben c'est ça qui est le fun, c'est que c'est il n'aurait pas pu sortir un meilleur moment, ce Animal Crossing New Horizons, parce que on a besoin de ça. On a besoin d'un petit monde cute avec des animaux. Qui font des jeux de mots puis qui sont vraiment mignons. Puis tu peux aussi inviter tes amis à aller jouer sur leur île à eux ou eux peuvent aller jouer sur ton île à toi. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment... C'est vraiment un super bon moment. On est tous pris, on est tous confinés. Donc, tu sais, on recherche un petit peu de se changer les idées. Moi, quand je joue à ça, je ne pense qu'à ça. Et je me dis, ah, mais je pourrais aller voir mes amis, je pourrais les inviter. Tu peux leur donner un code. Il y a différentes manières. Je suis encore en train d'expérimenter, là, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à savoir. Mais tu peux leur donner un code ou tu peux les inviter. Il y a différentes manières. Tu peux même leur envoyer des cadeaux. Tu peux acheter, tu peux créer, parce qu'il y a toute l'espèce de partie du crafting où est-ce que tu dois accumuler des objets pour créer un autre objet. Par exemple, je vais faire une table à pique-nique, mais je vais avoir besoin d'un morceau de bois, d'herbe, puis mettons d'une roche. Puis là, je vais faire ça. Donc, tout ce qui est le crafting qu'on appelle, c'est super important parce que tu peux faire des objets. Puis tout ça, là, je suis très consciente que tout cela a l'air très, très futile ou très « mais voyons faire ça dans un jeu vidéo », mais il y a comme quelque chose de réconfortant et de soutenant là-dedans. C'est très mais, cute. C'est, oui, vas-y.
Mais mettons que, parce que tu dis justement qu'on peut aller sur l'île de nos amis, mais si je vais sur ton île, est-ce que je peux, mettons, m'occuper de ton jardin ou je peux pas vraiment, comme mettons, interagir ou fabriquer quelque chose sur ton île? Je peux-tu faire ça?
Je pense que tu peux le faire, mais il faut encore que j'invite du monde pour le tester, pour être certaine. Je crois que oui.
Pourrais voler tes légumes, mettons.
Ben, c'est ça que je me demande en ce moment. Fait que c'est sûr que si t'es des amis, tu ferais pas ça, tu sais, mettons, je pense que tu te parles à... Sérieusement, je pense que ça pourrait causer beaucoup de problèmes aussi, là, si quelqu'un décide de faire ça, là. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui serait possible, mais je dois explorer encore le jeu, parce que j'ai pas tout vu encore, là. Il y avait beaucoup de choses, là. Écoute, j'ai tellement été occupée avec le Bonne Idée que je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Avant d'enregistrer l'épisode, j'étais encore en train de jouer, là. J'étais comme, OK, il faut vraiment que j'attrape tous les œufs de Pâques en ce moment. Bref.
Bref, il a failli pas avoir d'épisode des Geekettes à cause de ce jeu.
T'en penses que c'est très proche.
C'est une publicité, ça, là.
Mais écoutez, je pense que, écoutez, j'aime beaucoup la musique, qui est très relaxe, tu as besoin de relaxer, c'est vraiment un jeu qui est parfait pour ça, c'est facile à embarquer, comme je répète, rien de stressant, puis c'est drôle aussi comment la manière que j'agis dans la vraie vie se reflète dans mon jeu, je sais pas si ça fait ça avec tout le monde, mais moi dans la vie, je suis une fille très économe, qui aime pas avoir des dettes, donc dès que j'ai su que j'avais une dette à Tom Nook, je me suis arrangée pour y payer le plus vite possible. Ma maison était vide, mais ma dette était payée. Donc, je trouvais ça drôle comment c'était un reflet de ma personnalité. Puis c'est cute parce que tu peux aussi, ton personnage, tu peux le personnaliser pour qu'il te ressemble ou pas, comme je pense qu'il y aurait beaucoup de choses sur la psychologie humaine à dire selon ce genre de jeu-là. Là. Tu mets le temps que tu veux. Oui.
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller jouer quelqu'un qui est totalement loin de toi, là, tu sais, quelqu'un de super dépensier, puis tout ça, tu sais, comme là, tu es raisonnable comme dans ta vraie vie, mais tu pourrais décider d'aller complètement à l'inverse, là, puis de faire comme, ah, moi, je vais être dépensière, je vais aller voler les légumes des autres, je vais ouais. être méchante, blablabla, blablabla.
Mais j'ai comme pas envie de faire ça dans la vraie vie, fait que j'ai comme pas envie d'aller faire ça dans une île super cute avec des animaux gentils, tu peux même les frapper et tout, là, mais je le fais pas, voyons donc. Je les trouve trop cute. Mais ouais, tu pourrais.
Tester, voir ce que ça fait. J'arrêtais juste voir, comme, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui arrive à l'histoire? Qu'est-ce qui arrive dans le jeu si je me tourne? Tu dois voir, il y a peut-être de la réputation aussi. T'as-tu un niveau de réputation avec les animaux sur l'île?
Il n'y a pas de la réputation en tant que telle, mais il y a des changements de comportement, par contre, qui peuvent arriver là, selon ce que tu leur réponds.
Selon ton attitude envers eux. Ouais. Okay, fait que c'est comme une forme cachée de réputation avec eux. Moi, j'aurais vu ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait quand tu tournes evil.
Ouais, ouais. Mais c'est cool. Mais je pense qu'il y a des animaux qui peuvent quitter ton île aussi s'ils sont pas bien, si tu leur portes pas de l'attention. C'est pas la chose la plus. Tu sais, il y a beaucoup de petits mystères parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Donc, c'est pas la chose qui est mise de l'avant. Mais oui, ça peut arriver. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Tu sais, moi, des fois, c'est pas si facile que ça, justement, parce qu'il y a des petits mystères un peu partout. Faut que tu devines, faut que tu essayes des choses. Fait que moi, j'avoue, quand j'étais bloquée, des fois, j'ai été voir sur Internet parce que, tu sais, j'ai une autre vie. Ça apparaît pas en ce moment, mais oui, j'ai une autre vie. Donc, c'est ça. Tu peux aller voir sur Internet pour certaines choses. Puis, sérieusement, ça va t'aider. Ça va te débloquer à certains moments quand absolument tu en as besoin. Mais bon, puis c'est ça. C'est immense comme monde. À date, écoutez, j'adore ça. Je le suggère. Comme tu disais, Martine, 80$. C'est un bon montant. J'ai été très chanceuse. Moi, je l'ai eu en cadeau. Donc, c'est comme... je comprends que c'est pas tout le monde qui a cet argent-là, mais écoute, t'as besoin de t'évader un certain temps, d'aller dans un endroit cute, d'avoir en même temps une petite communauté d'amis qui jouent à ça, c'est vraiment agréable. Puis c'est un genre de jeu qui te plaît, je te le suggère fortement. Ça vaut la peine. J'ai l'impression qu'il va avoir un bon niveau de rejouabilité. Est-ce que c'est ça le mot?
Exact. Mm-hmm.
Ouais, j'ai l'impression que tu veux rejouer. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais pour l'instant, on s'amuse beaucoup et c'est fort agréable. Donc, oui, je recommande, c'est votre genre de jeu. Allez-y.
C'est une franchise énormément populaire là, de Nintendo. Fait que, clairement, tu n'es pas la seule là, à aimer ce genre de jeu-là.
Non, puis j'ai été surprise là, que ça pouvait me plaire parce que j'étais la première à juger ce genre de jeu-là. Finalement,
c'est
ça
les hormones. C'est les hormones de femmes enceintes. Mais moi, ce que je me demande, Fanny, c'est est-ce que ça va t'ouvrir à aller voir les autres jeux de cette franchise-là?
Je sais pas si j'irai voir parce que c'est quand même un gros jeu puis j'ai beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, non, mais éventuellement, quand et si je finis ce jeu, je serais curieuse d'aller voir les versions, mettons, sur Nintendo DS qui sont dans des petits formats parce que c'est ça qui est le fun avec la Switch, c'est que tu peux jouer sur la télé ou simplement dans tes mains. Puis vu que la Switch est un peu lourde, moi, je sais pas pour toi, Martine, mais moi, je la trouve un peu lourde quand je joue simplement avec la console portable. J'aurais tendance à aller voir les jeux qui sont sur DS, qui sont des consoles portables également. Aussi parce que je trouve ça plus pratique que de prendre la télé puis prendre comme m'accaparer ça, là, puis que mon chum ne peut pas jouer à Call of Duty, là, ce qui serait un gros sacrilège dans cette maison.
Non, moi aussi, si je veux jouer en portable, je prends ma 3DS, je prends pas ma Switch. Ma Switch pour la télé, puis ma 3DS pour le portable.
Est-ce que tu la trouves lourde un petit peu?
En fait, comme je dis, je la prends jamais. Je l'ai pris une ou deux fois comme ça, puis effectivement. Mais c'est pas tant que je la trouve lourde, mais que je la trouve large. Je me mets un petit coussin. Tu sais, je suis rendue plus vieille. Hein? Je me mets un petit coussin puis j'accote mes mains dessus. Fait que comme ça, je la trouve pas lourde.
C'est drôle.
Non, mais c'est vrai. C'est comme moi, je me suis mis à avoir des crampes dans le cou à cause que, tu sais, je me plaçais mal et tout. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'il y a l'option Switch Lite aussi. On doit pas avoir les seuls à avoir ce petit problème-là quand même. On est rendu à cet âge-là. Mais c'est ça. Mais en gros, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur Animal Crossing. Est-ce que vous avez des questions?
Moi, j'aurais un commentaire. Tu disais que ça peut sembler futile de ce jeu-là, de planter des légumes puis de couper des arbres, mais tous les jeux, en général, si tu le réduis à son plus petit élément, genre j'ai un fusil puis je tue des zombies ou des monstres, ou j'ai un guerrier en jeu puis je vais tuer des monstres pour ramasser d'équipements, tous les jeux sont futiles. L'important, c'est que tu aies du plaisir, là. Des pixels de couleur qui te divertissent.
Oui, c'est bon. C'est
ouais, bon, moi, je pense que c'est encore pire. Tu sais, j'aime les platformers. Tout ce que je fais, c'est avancer puis sauter par-dessus des trous.
Exact. Quand tu le réduis, c'est tellement ridicule, des jeux, quand tu es réduit comme ça. Là, fait que...
C'est vrai qu'expliquer comme ça, ça fait un peu drôle. Tu sais. Mm. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Je suis normale, tout va bien. C'est parfait. Écoutez,
j'ai fait ça pour une chronique de jeux vidéo. Fanny, beau travail.
Merci. J'ai beaucoup d'enthousiasme. J'ai hâte que l'épisode finisse. Je vais retourner. Puis ajoutez-moi comme ami si vous jouez aussi. Cause I saw Tiger. Now I understand. I saw Tiger. Tiger saw me. Alors, on passe de Animal Crossing au Animal Kingdom avec Eliane.
Yes, moi je vais parler de Tiger King, le phénomène. Fait que là, il y avait, c'est pas tout le monde hein, qui l'a vu dans les geekettes, là. Toi, Fanny, tu l'as vu?
Oui.
Puis Martine, toi aussi?
Ben, je l'ai vu, mais à 50%. Là, j'ai pas vu tous les épisodes, j'ai vu des bouts d'épisodes.
Okay, parce qu'elle dormait tout le long.
Puis toi, Chantal, toi, tu disais que tu l'avais pas vu du tout?
Non, j'avais vu le trailer sur Netflix, puis j'en ai entendu parler. Je peux comme décrire c'est quoi, mais non, je ne l'ai pas regardé. Mais j'attends après ta chronique pour voir si je vais l'écouter ou pas.
Écoute, je que dire de Tiger King? C'est complètement fou. C'est un freak show. C'est un total, total freak show. Ça n'a pas de bon sens. Pour ceux qui connaissent pas vraiment Tiger King, qui en ont pas vraiment entendu parler, je sais pas où est-ce que vous étiez, vous deviez être sous une roche ou quoi que ce soit. Je suis tombée sur une description du journaliste Paul Henley de l'agence France Presse qui disait que Tiger King, c'était comme un mélange entre Animal Planet et Breaking Bad. Je trouve que c'est déjà pas pire. C'est rentré sur les ondes de Netflix, c'est rentré comme un raz-de-marée le 20 mars dernier. Puis encore ce matin, c'est en tête du top 10 des émissions les plus populaires sur Netflix. Les gens en parlent. J'ai trouvé des articles dans The Verge, dans Wired, dans Le Parisien, dans New Yorker, New York Times, dans Forbes, dans La Presse, dans Le Devoir, tout le monde en parle. Fait que c'est quoi Tiger King? C'est un monde avec des personnages complètement flamboyants puis bizarres. On se croirait dans un film des frères Coen ou de Wes Anderson ou les deux ensemble, tu sais. Il faut que tu te pinces pour te rappeler qu'il s'agit d'un documentaire puis pas d'une fiction tellement c'est juste rocambolesque. Comme je disais, c'est vraiment un ultime freak show. C'est dans le fin fond d'une redneck city de l'Oklahoma, on trouve un mélange explosif. C'est des tigres, des lions, des paillettes, des imprimés animaliers, des personnalités hyper narcissiques, des employés éclopés, des fusils, de la drogue, de la polygamie, un hitman, des escrocs, la disparition mystérieuse d'un millionnaire, la pizza faite avec la viande passée date, une campagne politique, un gourou, puis j'ai même pas tout dit encore. C'est hautement populaire, puis c'est addictif, mais c'est comme du McDo. T'en manges, puis tu sens un petit peu mal après. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. L'histoire, c'est décrit tout simplement comme un propriétaire d'un zoo d'animaux exotiques dans l'Oklahoma avec son propriétaire qui s'appelle Joe Exotic, qui vit une espèce de confrontation. Ben, en fait, on est en train de présenter tout ce monde-là, le monde du zoo avec ceux qui vont élever des tigres et des lions. Et puis, lui, il vit une espèce de confrontation avec une dame qui, elle, a aussi un genre de zoo, mais elle, c'est un refuge pour les animaux en danger, surtout des tigres et des lions, parce que elle, c'est vraiment l'ultimate cat lady. Et puis, Fait que là, il y a comme une confrontation entre ces deux-là et ça prend des proportions complètement débiles mentales. Fait que c'est le genre d'émission que tu regardes, il y a 7 épisodes, puis tu regardes ça, puis à chaque fois, c'est comme écouter Jerry Springer. T'es comme découragé complètement.
C'est vraiment un bon comparatif, ça.
Mais tu peux pas être indifférent à ça, là. C'est ça. C'est du Jerry Springer, c'est du McDo, c'est ça. En tout cas, ça divertit. C'est quelque
chose. Mais tu penses-tu que c'est vraiment tout vrai?
Oui, c'est ma question. C'est-tu inspiré de quelqu'un qui existe pour de vrai ou c'est totalement fictif ou c'est un entre-deux?
C'est un documentaire. Ce sont des gens, c'est leur vraie vie. C'est la vraie chose. On n'est pas dans la fiction du tout, là. C'est vraiment...
Wow.
Bon. À savoir, est-ce que c'est complètement vrai? Je te dirais que... Je pense que dans les faits sont véridiques, mais qu'est-ce que les gens vont raconter? Écoute, moi, d'après moi, Joe, c'est un menteur compulsif, là. Je vais en parler un petit peu plus loin dans la chronique. Mais, tu sais, ben, en fait, je peux le dire maintenant, là, tu sais, il raconte toutes sortes d'histoires. Plus tu cherches des choses sur lui, plus tu te rends compte qu'il est bizarre puis qu'il va aller manipuler la réalité puis tout ça. Bon, à un moment donné, au fil des événements, il se retrouve à être l'objet d'une enquête du FBI et tout ça pour avoir comploté pour faire assassiner sa rivale. Puis ça se passe pendant le temps qu'ils sont en train de tourner le documentaire sur lui, sur sa vie, puis tout ça. Puis finalement, il parle à son producteur, puis il dit, selon son producteur, il dit « Ah, écoute, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de m'en aller, je vais quitter le zoo qui était le projet de sa vie, là, qu'il disait. » Puis il dit « Ah, mais là, non, je vais quitter. » Puis c'était vraiment brutal, puis les gens comprenaient pas. Fait que quand les gens lui posaient des questions, ils étaient comme « Ah, mais là, c'est parce que j'ai vécu une épiphanie dans ma vie. Puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'on traitait mal les animaux, puis je suis rendue du côté de PETA maintenant. Fait que, non, je vais vraiment comme abandonner, puis tout ça. » Et c'est complètement contraire de tout ce que le personnage disait. Parce qu'une chose à savoir, c'est que ce tournage-là, avec la gang du zoo de Joe Exotic, ça s'est déroulé sur 2 ans. Fait que ça faisait 2 ans que à la caméra, il répétait toujours les mêmes choses, comme quoi il était pour, il trouvait pas qu'il prêtait mal ses animaux et tout ça, puis qu'il était complètement en guerre contre les gens de PETA. Fait que tu vois le genre de mensonge qu'il peut dire, puis c'est un homme tellement charismatique que les gens le croyaient. Fait que, à savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je te dirais. Les faits sont vrais, les histoires qui sont racontées, celles-là, je les prends pas mal toutes avec un grain de sel.
Ouais, puis tu sais, pour ceux qui l'auraient pas vu, là, tu sais, on parle d'un zoo, là, mais tu sais, c'est un zoo pas très legit, là, dans le sens que c'est comme si moi, personnellement, dans la vie, je m'achetais des tigres, puis je déciderais, oh, mais les gens venaient voir les tigres que j'ai, tu sais. C'est pas comme ouais. Le zoo de Granby non plus, là.
Non, c'est ça, tu vois, c'est quoi la réalité d'avoir un zoo aux États-Unis? C'est vraiment pas les mêmes règlements, hein?
Ben, tu sais, c'est ça. Puis ça se passe, comme je disais, dans genre Redneck City. Là, ça s'appelle Wynnewood. Puis, mais peu importe, parce qu'on découvre aussi dans cette émission-là d'autres propriétaires de d'autres zoos. Ils appellent ça des roadside zoos. Puis là, ça, c'est complètement autre chose. Fait que tu sais, quand les gens se plaignent que les animaux sont maltraités dans les zoos, puis tout ça, quand on a la référence des zoos qu'on connaît au Québec, on est comme... Ah ouais, tant que ça. Mais quand tu les vois là-bas, les animaux, comment est-ce qu'ils sont traités et dans des espèces d'environnements de cirque, là, mais c'est vraiment du freak show, là. C'est là que tu te rends compte que non, là, on parle pas pantoute de la même game, là.
Ouais, c'est surprenant de voir qu'aux États-Unis, il y a autant de gens qui peuvent avoir des tigres puis des lions. Là, c'est... Moi, ça m'a renversé. Là. En plus, je suis un peu contre les animaux en captivité. Fait que ça, j'étais comme, ben voyons donc, tu peux t'acheter un tigre là, sur le marché comme ça. T'sais.
Exact.
C'est complètement... comme 2 000 $ un tigre en plus, là, qu'ils disaient.
Oui, ouais. Tu sais, je veux dire, il y a certains chiens qui vaut ça 2000$, tu sais, fait que je n'en revenais pas que tu peux t'acheter un animal exotique pour ce prix-là, tu sais.
C'est un gros business, là, parce que c'est justement, c'est une des choses qui font au zoo, c'est que oui, les gens vont venir visiter. Le but de ce zoo-là, c'est, tu sais, ça va être aussi beaucoup pour que les gens viennent se faire prendre en photo avec des bébés tigres, des bébés lions, tu sais. Puis là, les gens vont aller voir ça, ils sont vraiment proches, puis ils capotent, puis tu sais, OK, oui, c'est cute, mais c'est quand même un peu malsain. Puis ces bébés-là, ben ils sont faits aussi pour la revente. C'est tout ce côté-là. Puis effectivement, là, tu te dis, mais combien est-ce qu'il y a de personnes qui possèdent un animal dangereux et exotique comme ça chez eux? Puis c'est ça, on dit, moi, en fait, s'il y a une chose que j'ai retenue de ça, c'est si tu possèdes un lion ou un tigre, c'est que tu es un peu fou dans la tête.
T'sais, juste avec les chats, je veux dire, moi j'ai de la misère à contrôler mon chat des fois. Là, je peux pas croire avoir un tigre chez moi. Non, ça fonctionne juste pas, là.
Dans l'émission, ça a l'air comme même un peu cute, là, tu sais. Des fois, tu le vois, genre, avec les tigres qui viennent se frotter, puis qui viennent, genre, jouer avec lui, avec leurs pattes, puis leurs espèces de griffes, que, genre, il fait juste donner un petit coup un petit peu trop fort, puis là...
Juste au moment où c'est moins cute, puis qu'il arrive des accidents, là, tu sais, tu fais comme « oh, oh, oh! »
Ouais, fait que non, c'est quelque chose. Fait que, bon, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Joe Exotic, c'est vraiment le personnage le plus bizarre que j'ai vu, la personne la plus bizarre que j'ai vue de ma vie, et j'aime beaucoup les gens qui sont des personnages, mais celui-là, c'est vraiment weird. Je sais pas si je suis la seule à trouver que c'est comme un sosie mec de Jean-Michel Antille, mais quand moi, j'y regarde la face, je trouve qu'il ressemble un peu à...
J'avais pas remarqué, mais maintenant que tu le dis, je vois qu'est-ce que tu vois.
Fait que, vous irez voir des photos, il ressemble un peu à Jean-Michel Antille maigre. Il porte une coupe longueuil peroxydée.
On fera un sondage sur la page de Geekette, on mettra une photo de Jean-Michel Antille puis Joe Exotic. Pensez-vous, y a-t-il une ressemblance selon vous?
Puis je pense que c'est-tu dans un des films de genre de père en flic, là, il me semble que Jean-Michel Anctil, il avait joué une espèce de méchant avec une moustache en père en flic aussi. Fait que, je pense que c'est ça, là. En tout cas, Jean-Michel, pour ton costume d'Halloween cette année, là, si tu te déguises en Joe Exotic, là, tu vas faire un hit pas mal, ça c'est sûr et certain.
Si l'Halloween n'est pas reporté en 2020, encore une fois. Ouais,
effectivement. Bon, alors, Joe Exotic, coupe longueuil, peroxydé, moustache en fer à cheval, des piercings partout dans face, sur ses oreilles. Il y a même, il dit fièrement qu'il y a un prince Albert qui a un trou où est-ce qu'il peut mettre une entrée de cadenas dedans. Complètement fou. C'est un homme qui est charismatique et manipulateur et qui a un pattern d'aimer genre les hommes d'environ 19 ans. Il y a eu dans la série, on nous présente trois de ses maris qui l'ont tous rencontré à 19 ans, que ces gars-là ont tous dit qu'ils étaient hétérosexuels et qu'ils se sont retrouvés mariés avec lui. C'est vraiment un weirdo. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est accro à l'entertainment puis à la controverse, là. Tout ce qui se passe, c'est comme, c'est un showman, puis en même temps, il se passe toujours de quoi? Il y a toujours de la controverse, constamment. Ça n'arrête pas. L'autre personnage sur lequel se base la série, c'est la fameuse Carol Baskin, ou, comme le disait Joe Exotic, Bad Bitch Carol Baskin. Comme je disais, c'est l'ultime follow chat. C'est elle qui s'habille en animal prince, comme complètement, une genre de hippie avec ses cheveux blonds qui va mettre des couronnes de fleurs dans ses cheveux, puis qui a un regard quand même un peu inquiétant. T'sais, elle semble super inoffensive, puis un peu nunuche au début, puis finalement tu te rends compte que c'est une femme qui est hyper puissante, elle est millionnaire, puis elle est comme, je sais pas, je ferais pas confiance. Est-ce que vous feriez confiance, vous, à Carol Baskin?
Ben, moi, déjà en partant, tu sais, juste le fait qu'elle dise qu'elle a un refuge, mais son refuge, on s'entend, elle fait pareil comme les autres qui ont des zoos illégaux, là. Elle n'est pas mieux que les autres, moi aussi, je ne ferais pas confiance.
Puis, dans mes recherches pour la chronique, j'ai découvert que dans les années 90, Carole Baskins, en fait, avant, avec son ancien mari, qui était le millionnaire qui est porté disparu, eux aussi, ils faisaient exactement pareil comme Joe, là. Ils élevaient des tigres puis des lions pour pouvoir faire des bébés puis pour pouvoir les vendre. C'était exactement la même chose qu'ils faisaient. Puis, elle avait même un bed and breakfast dans les années 90 où son selling point, c'était « Hey, viens dans mon bed and breakfast puis tu vas pouvoir dormir avec des bébés tigres et lions. »
Ouais, c'est fou. Moi, ce qui m'a vraiment choquée d'elle, entre autres, c'est que elle a comme vraiment plein de bénévoles, puis il y a comme des niveaux de bénévoles. Ils ont genre 5 niveaux de bénévoles. Puis en plus, elle n'est même pas capable de se rappeler de leur nom. Moi, ça m'a complètement choquée quand elle a dit ça à la caméra. J'étais comme, mais voyons, voir que tu ne peux pas te rappeler de tes bénévoles.
Ah ben, écoute, c'est complètement fou. Puis une des choses aussi qu'on découvre là-dedans, c'est que là, il y a elle, il y a le zoo de Joe, il y a aussi un autre zoo qui a été présenté un peu, mais qu'on n'a pas creusé davantage, mais que je pense qu'il y aurait matière à faire une saison juste sur lui aussi. C'est celui de Bhagavan Duck Antle. Puis lui, c'est vraiment comme un gourou en tant que tel, là. Il se voit comme un gourou faussement indien avec la méditation et tout ça, mais c'est juste du culte. Et c'est comme ça pour les trois. Les trois, c'est exactement la même chose. Je veux dire, quand tu parles, Fanny, comme qu'il y a des bénévoles avec différents niveaux, ben c'est comme c'est complètement pyramidal, là, cette histoire-là, là, c'est complètement fou. Puis Joe aussi, c'est tous ces gens-là ont des gens qui viennent travailler pour eux quasi bénévolement ou pour des peanuts qui vont donner leur vie pour supposément sauver les animaux puis tout ça, mais dans le fond, ils sont sous le joug de ces personnalités-là qui sont à la tête de ça. Puis dans le cas de Joe Exotic, c'est ça qu'on voit dans le dans l'émission, c'est que plus ça va, plus il perd le contrôle sur son ego, sur son narcissisme, puis là, finalement, ça vient juste éclater, là, c'est complètement fou. Mais bon, pour revenir au personnage, là, aussi parmi mes recherches, là, tu sais, bon, il y a Joe, il y a Carole, il y a Doc Antle, puis, mais tous les personnages qui apparaissent là-dedans, ils sont tous. Ils ont tous quelque chose, ils sont tous fous. Le gars qui est le propriétaire du club de danseuses du village, puis qui va faire qu'on le voit à un moment donné sur son jet ski, il est bizarre. Ils sont tous bizarres. Ils sont vraiment, vraiment tous weird. Mais même les gens derrière la caméra ont tous une histoire un peu weird. Tu sais, j'ai découvert que le réalisateur de Tiger King, Eric Good, c'est pas un réalisateur de profession, hein. C'est d'abord et avant tout un gars qui a été formé dans le domaine des beaux-arts, qui est devenu restaurateur puis hôtelier. Dans les années 80, il était propriétaire de l'Aria, qui était un nightclub populaire de New York, qui était fréquenté par des artistes de super grande renommée comme Andy Warhol, puis Jean-Michel Basquiat, puis Keith Haring. Lui, il a déjà fréquenté la mannequin Naomi Campbell aussi auparavant. Au niveau de la réalisation, il a quand même fait certaines choses. Il a réalisé des clips pour Nine Inch Nails. Et aussi, c'est un grand fan de la conservation des animaux, puis il a fondé un sanctuaire de tortues. Fait que là, il se retrouve, après ça, à la tête d'une série sur Netflix qui est complètement tordue. Fait que, voilà. Je sais pas si vous saviez, Mais j'ai découvert que il y a un lien entre Tiger King et le monde du podcast. Avant que Tiger King soit présenté sur Netflix, il existait déjà un podcast dans la deuxième saison de Over My Dead Body. Et puis, il y avait un épisode qui était consacré à Joe Exotic. Et puis, il y avait une actrice qui avait fait Saturday Night Live, Kate McKinnon, qui est complètement tombée en amour avec l'histoire et tout ça. Et elle a acheté les droits pour ça. Alors, il va y avoir probablement une série de fiction qui va être créée à partir de cette histoire-là. Et ça devrait être dans les cartons. Sinon, à part de ça, c'est impossible de passer à côté de Tiger King. Je sais, tu sais, là, on sait pas. Bon, déjà, l'histoire en tant que telle, c'est complètement fou, mais en plus de ça, en période de confinement, ben, les gens sont rivés à leur Netflix. Donc là, ça a pris une espèce d'ampleur. Là. C'est vraiment un coronavirus de par soi-même. C'est vraiment. Puis tous les éléments étaient là pour que ça puisse rentrer dans la culture pop. Il y a des milliers de memes qui sont disponibles. Faites juste une petite recherche sur Internet et puis là, vous cherchez meme Tiger King, puis là, vous en avez là, pour de bonnes heures à rire de tout ce qu'il y a.
Ouais, puis je vais juste dire là-dessus, il y a même Constance Harvey qui est collaboratrice au Geekette. Elle a fait un dessin de Joe Exotic aussi, donc on va le partager.
Oui! Puis, vous cherchez, là, puis pas mal toutes les grandes vedettes veulent s'associer de près ou de loin à Joe Exotic. Kim Kardashian qui a tweeté à propos de Joe Exotic. Il y a Cardi B qui a tweeté avec ça. Il y a un hashtag qui est devenu viral parce que là, Joe Exotic est en prison présentement parce que, bon, spoiler alert. Il aurait manigancé pour pouvoir faire tuer sa rivale, that bitch, Carol Baskin. Et puis, il a été jugé dernièrement, en fait, en janvier dernier. Il a été jugé coupable. Alors, il est en prison présentement. Alors, là, présentement, il y a une campagne hashtag Free Joe Exotic qui est devenue virale. Et puis, il y a plein de gens qui suivent ça. Donc, c'est complètement fou. Sachez que Joe a une page Facebook qui serait faite pas par lui directement, mais plutôt par son entourage. Et puis, sa page Facebook compte 91 000 abonnés. Puis son compte Instagram est encore plus populaire avec 385 000 abonnés. Sinon, dans la culture populaire, ben, on a parlé... là, on ne sait pas s'il va y avoir un Halloween ou pas, alors peu importe, sachez qu'on peut trouver aussi sur Internet plein de vedettes qui profitent du confinement pour pouvoir se déguiser et se désennuyer en se déguisant en personnage de Joe Exotic. Alors, qui est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, j'ai trouvé facilement Sylvester Stallone et sa famille, Rob Lowe et Jared Leto. Vous irez chercher ça, c'est assez drôle.
En même temps, c'est un peu weird quand même là, de se déguiser en personnage machiavélique comme Joe Exotic, là, mais bon, j'ai un peu de misère avec ça, mais écoute, c'est peut-être juste moi.
Joe est vraiment machiavélique, c'est ça la question. Ah. L'autre jour, j'en parlais avec mon coloc, puis il était comme, mais c'est un con, mais c'est juste un con.
Il est pas con, il est intelligent, ce gars-là. C'est juste qu'il est... Ah, je le trouve manipulateur et narcissique, là, c'est
pour ça que j'ai un peu un malaise avec ce genre de série-là, parce que c'est comme si on lui... Tu sais, on s'entend, là, il a fait des coups croches dans la vie, justement, c'est un manipulateur, puis, tu sais, on lui donne l'attention qu'il cherche. C'est ça qui me crée un peu un malaise, parce que c'est rendu, c'est comme... Les gens, ils prêtent quasiment un culte, justement, avec tous ces mimes-là, puis sa page Facebook, puis ça, je sais pas, ça...
Ouais.
Mais c'est-tu vraiment un culte? Je veux dire, tu sais, mon père est riche en tabarnak, puis Bonne Fête Kevin, puis The Heineken, une tequila, pas le temps de niaiser. C'est-tu un culte ou on se moquait d'eux?
Ah, mais tu sais, de là, je veux dire, il y a quand même une page pour le sauver de prison, je sais pas, tu sais.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Martine, là-dessus. C'est pas le genre de personnage qu'il faut qu'il faut valoriser, tu sais, comme ou encenser. C'est absolument affreux ce qu'il a fait. Puis, tu sais, justement, le documentaire démontre bien tout ça, justement, comment c'est malsain, ce milieu-là. Puis tu peux te faire une bonne idée de comment c'était. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui justement, sont comme, ils ont une fascination pour Joe Exotic quand c'est exactement ce qu'ils recherchent. Puis tu devrais pas faire ça. Tu devrais plutôt dénoncer ce genre de personnage-là.
Ben, moi, je suis fascinée, même si je le trouve déplorable, mais je trouve ça fascinant parce que, justement, c'est quelqu'un qui est tellement loin de moi. Puis, je comprends, puis ça me fait peur, par contre, de voir à quel point est-ce que certaines personnes vont faire comme, ah, lui, c'est vraiment l'exemple à suivre parce qu'il suit ce qu'il pense. C'est il suit vraiment sa propre liberté. Ça, je trouve ça un peu intense. Mais tu sais, dans une époque où est-ce qu'on parle beaucoup de rectitude politique, puis tout ça, ben, Joe Exotic, il est pas en tout en rectitude politique, là. Il dit ce qu'il pense, puis ce qu'il pense, c'est absolument pas soft. Puis non, ça fait dur beaucoup. Ben, en tout cas, de toute manière, une chose à savoir, là, si vous voulez en savoir vraiment plus là, sur qu'est-ce qu'il y en est, il y a vraiment plein de choses, mais sachez qu'aujourd'hui même, il y a un 8e épisode qui est sorti sur Netflix. C'est un after show qui s'appelle The Tiger King and I, qui est présenté par l'acteur et l'humoriste Joel McHale, puis qui contient des interviews de plusieurs personnes qu'on a rencontrées dans la série avec Eric Cowie, John Reinke, John Finley, qui était l'ancien mari de Joe Exotic, là, celui qui avait vraiment une dentition affreuse. Eh bien, sachez que John Finley s'est fait refaire les dents. Et puis, il y a maintenant une page Facebook où est-ce qu'il se décrit comme un speaker motivationnel. Donc, il donne des conférences sur la sobriété et comment vivre sa vie. Et puis, bref, vraiment sur plein de personnes, ça a l'air super intéressant. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'écouter avant l'émission, mais je vais aller faire ça parce que je suis complètement fascinée. Fait qu'il y aurait encore tellement de choses à dire, mais tellement de choses à dire sur Tiger King. C'est vraiment quelque chose qui ne laisse personne indifférent. J'imagine que vous avez été autant fascinée. Alors, bref, allez sur Internet, allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a vraiment plein de choses à regarder présentement pour en savoir un petit peu plus. Plein d'articles super intéressants, donc je vous invite à suivre sur Internet.
Hey, faut qu'on se parle.
Oh-oh! Alors, Eliane, on va terminer ça avec ta chronique « Faut qu'on se parle ».
Oui, je pense que c'est important qu'il faut qu'on se parle de notre santé mentale. Je ne sais pas pour vous comment est-ce que ça se passe, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est fragile et qui peut être un peu insidieux. Je vais partir d'une anecdote personnelle. Moi, cette semaine, tu sais, je me considérais quand même chanceuse là, jusqu'à maintenant. J'ai la chance de vivre dans un bel appartement, quand même calme, avec, tu sais, dans un bon environnement. Puis j'ai pas eu à souffrir du stress, de perdre mon emploi, de vivre l'incertitude, d'avoir des paiements qui arrivaient, puis tout ça, qui était stressant. Fait que, tu sais, quand les gens me demandaient comment ça allait, je disais, ah, ben, ça va quand même bien, puis tout ça. Puis, il y a une journée, du jour au lendemain, je suis devenue stressée. J'ai fait de l'anxiété sur le virus, comme vraiment, là. Puis là, j'ai fait comme, oh, wow, attends, là, c'est comme, ça a pris une ampleur en une journée qui était comme, que j'avais pas vu venir du tout, du tout, du tout. Fait que je trouvais ça quand même important qu'on puisse en parler parce que justement, c'est quelque chose qui peut nous arriver comme ça, là, comme un coup de bâton en face. Puis de parler aussi un peu de qu'est-ce qu'on peut faire là, pour pouvoir éviter ça. Parce que là, une des choses qui est très importante, c'est de faire attention à continuer à avoir une bonne hygiène de vie. Donc, de bien dormir, de bien manger, de pas trop boire d'alcool. Moi, ce qui a vraiment changé aussi pour moi, mon attitude, c'était, ben d'un, je me suis parlé un peu parce que la source de mon stress, c'était vraiment de me dire, OK, ben là, je suis à Montréal. Puis quand je voyais le nombre de cas augmenter, puis là, je me disais, oh my God, là, c'est vraiment intense. Puis c'est là que ça commence à jouer dans ta tête. Fait que là, j'ai commencé à déconstruire comment ça fonctionne, comment déconstruire tout ce qui se passait dans ma tête, puis me dire, bon, regarde, tu sais, oui, il y a des cas, mais quand tu y penses, c'est quand même pas beaucoup à Montréal pour le nombre de populations et tout, et blablabla.
Je me souviens, je t'avais déjà dit, on s'était déjà parlé au téléphone il n'y a pas longtemps, puis je t'avais dit, écoute, le pourcentage, tu calcules le pourcentage de gens affectés à Montréal, comparé à où on est à 1,7 million, je veux dire, ça fait vraiment pas beaucoup, là, si tu calcules tout ça.
Oui, effectivement, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça, à comme dégonfler un peu la grosse bulle qui s'était montée dans ma tête. Puis une des choses qui vraiment, aussi j'ai plein de questionnements comme dans ma vie personnelle en train de me poser la question à savoir ça va être quoi la vie après la COVID, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui risquent de changer pour la suite des choses. Ça m'occasionnait quand même beaucoup de stress invisible. Puis une des choses que j'ai faites pour m'aider, c'est vraiment de me remettre à faire du sport. Donc, je suis sortie aller courir un peu, vu qu'on a encore le droit de faire ça. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'a aidé beaucoup. Puis sinon, ben, ce que je conseillerais aussi, c'est de faire des exercices de respiration. Comme, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, les filles.
Non, pas du tout.
Non, je ne connais pas.
C'est, vous allez chercher la cohérence cardiaque sur Internet et puis c'est un exercice de, c'est tellement simple de respiration où est-ce que tu fais c'est 6 respirations à la minute. Donc, puis tu peux avoir une petite application que tu peux télécharger sur ton téléphone qui va t'indiquer quand il faut inspirer, quand il faut expirer. Donc, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Puis, ça vient vraiment te calmer. Puis, ça a été, il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Puis, si tu fais ça comme 3 fois par jour, par exemple, ça vient vraiment diminuer le stress que tu vas vivre.
J'avais une suggestion d'application.
Oui.
Je ne sais pas si il y en avait que tu voulais mentionner.
Moi, je peux dire celle que j'avais, mais toi, est-ce que tu en as une à mentionner aussi?
Ben, écoute, commence par la tienne, puis je te dirai si c'est la même qu'on a.
Moi, celle que je préfère, ça s'appelle Respiration Cohérence Cardiaque. Je te dirais, c'est celle avec... avec une fleur de lotus qui est là. Celle-là, je l'aime bien gros. Toi, c'est laquelle?
Mais en fait, il faut encore que je l'essaye. Ça a l'air que c'est bien reconnu. C'est Respire Relax. C'est comme un petit carré gris.
Mm-hmm.
Puis j'ai entendu parler de cette application-là. Je pense qu'il y en a une autre aussi en anglais qui est connue qui ne me vient pas à l'esprit. Là. Je ne sais pas si les autres la connaissent, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, un des trucs qu'ils disent aussi, c'est de respirer, qui est super simple, mais qui n'est pas si facile que ça à faire, c'est de respirer par ton ventre plutôt que par ton haut de corps. Si tu respires par le ventre, comme les bébés font habituellement, ça aide vraiment beaucoup. Moi, c'est un truc qui m'a été donné, puis c'est un des meilleurs trucs qui aide à calmer, là.
Oui, c'est un type de respiration un peu yogique là, qu'on fait en yoga. Là. Donc, c'est de gonfler le bas de ton ventre et tout ça. Fait que oui, comme les bébés, effectivement. Moi, c'était... je sais qu'il y a une autre application aussi, c'est les thermes d'Alevar, je pense, qui propose de la cohérence cardiaque. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'était d'avoir quelque chose qui m'indique quand je dois inspirer et expirer, mais que je pouvais fermer les yeux en le faisant, parce que souvent, ils vont proposer des trucs avec une espèce de petite boule qui va monter puis descendre pour te dire quand il faut inspirer, quand il faut expirer. Des fois, la musique est un peu poche. Fait que moi, en tout cas, celle que j'ai trouvée là, ça a été ma préférée.
Ben, parlant de musique, je sais pas, mais moi, je suis abonnée à Spotify, puis j'ai découvert dernièrement les genres de, justement, musique d'ambiance, relax, calme et tout. Puis aussi, je pense sur Internet, sur YouTube, sinon là, tu peux trouver des playlists de concentration puis de relaxation ben zen.
Ouais. Puis un autre truc aussi que je m'étais fait dire une fois dans un atelier pour gérer l'anxiété, puis qui est vraiment super agréable aussi, c'est le truc de la flamme. Donc, si tu as une bougie chez toi, tu t'allumes une bougie puis tu fais juste regarder la flamme pendant une minute. Puis juste ça te permet de te concentrer sur autre chose, puis ça vient vraiment diminuer ton anxiété. Fait que ça, c'est vraiment bien, je trouve.
Je pense que c'est drôle, ce truc-là, parce que je me rappelle dans une console de Nintendo, je me souviens plus laquelle, mais t'avais comme cet exercice-là qu'il fallait que tu fasses, mais c'était un petit peu plus stressant parce que c'était un jeu, fait que j'imagine que la version prend une bougie ordinaire fonctionne sans doute vraiment mieux.
Ben oui, à moins que ça te rappelle justement ton jeu que tu as joué, puis que là, genre, ça te rappelle le stress que tu avais dans ce jeu-là. Mais je ne sais pas, vous, les filles, est-ce que vous avez vécu un peu quelque chose de semblable? Est-ce que vous avez des trucs, vous, que vous faites pour garder une certaine santé mentale dans cette période-là?
Ben, moi, c'est quand même, je trouve ça spécial parce que dans ma vie éveillée, je me sens pas plus stressée à cause de la situation. Par contre, je suis une super grosse dormeuse, puis là, je me rends compte que je dors plus bien la nuit. Je me réveille super souvent, puis ça, je fais pas ça. Donc, clairement, il y a une source d'anxiété qui vient me chercher, mais je le ressens pas dans la journée. C'est ça que je trouve spécial quand même.
Ben, c'est pour ça que je disais que c'était comme un peu insidieux. En tout cas, de mon côté, ça a vraiment fait ça, puis ça m'a vraiment tapé comme une brique d'en face, là.
Ouais, puis tu sais, moi, on dit souvent, là, moi puis Chantal, les chiffres, c'est notre passion. Fait qu'un peu comme Fanny, tu sais, pour moi, quand que je mets ça par, tu sais, le nombre de cas par million, je dis, ben mon Dieu, c'est même pas 1%, tu sais, puis là, une fois que tu calcules le décès pour le moment, je dis, OK, mais là, c'est encore moins que ça. Fait que c'est pas la maladie en tant que telle. Tu sais, pour moi, c'est plus, je pense, comme toute la situation économique puis la précarité que ça l'entraîne, parce que ça, c'est vraiment un gros pourcentage, tu sais, de la population qui est touchée, tu sais, puis je le vis aussi avec mon entreprise puis tout ça. Fait que, tu sais, clairement, je pense que ma source de stress vient de là. Tu sais, comment je le gère, écoute, c'est sûr, moi, j'aime beaucoup courir, puis là, le printemps arrive, fait que ça l'aide. Puis, tu sais, puis je sais que c'est pas recommandé habituellement pour ça, mais moi, personnellement, quand je joue aux jeux vidéo, je pense absolument à rien d'autre. Fait que moi, je pense que ça me calme, là, mais je pense pas que c'est recommandé par les psychologues, là.
Ben, peut-être le jeu comme celui de Fanny avait proposé, ça ouais. s'est calmé.
Ben, moi, je pense que, sérieux, ça devrait être recommandé, les jeux vidéo, parce que c'est vrai que ça fait vraiment déconnecter, puis tu penses vraiment pas à ça, puis c'est pas mauvais, parce qu'on y pense tellement tout le temps à cette situation en ce moment, juste avec les nouvelles, puis justement, d'arrêter les nouvelles, là, c'est une autre affaire, arrêter.
Ah ouais.
Ou arrêter de regarder les sites web, puis les nouvelles qui sortent comme non-stop, là. Sincèrement, moi, j'ai diminué beaucoup ça, puis ça m'a beaucoup aidé à gérer le stress, là.
Ah oui, hey, moi, ma crise d'anxiété est arrivée juste après que j'aille écouter le Point de presse, là, justement. Puis là, j'étais comme, ah oh non, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça.
Ouais, puis c'est moi puis mon chum, à tous les jours, tu sais, on prend au moins une bonne demi-heure là, pour aller prendre une marche aussi, là. Puis, tu sais, juste prendre de l'air, de changer d'air, ça fait du bien, là.
Ouais,
c'est vrai. Puis il y a plein de ressources gratuites en ce moment. Il y a beaucoup de cours d'entraîneurs qui donnent des cours en ligne gratuitement. Je pense que je vais les partager d'ailleurs sur la page des Geekettes parce que des fois, ils ont une petite boîte de type là, en ligne qui est quand même gentille, qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même gentille parce que tout le monde en arrache un petit peu. Fait que je vous les donnerai. Moi, je fais beaucoup des trucs en ligne, de l'exercice en ligne. Écoutez, pour ne pas la nommer, j'ai l'application de Jillian Michaels en ce moment et je capote. Okay. Mais bon, c'est un petit peu cher par contre, mais ça faisait longtemps que je voulais m'abonner puis je suis une grosse fan de Jillian Michaels. Fait que c'est une bonne raison. J'ai plus mon gym. Je suis triste.
Ben, tu sais, moi, j'ai Nike Training qui est gratuit que j'utilise.
Ah, c'est bon, ça. Non, ça, c'est vraiment des bonnes ressources et tout ça. Moi, il y a quand même certains trucs, là. Heureusement, mon gym ou bien mon cours de danse ont commencé à faire des cours en ligne aussi. Fait que ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai, je me suis vraiment rendu compte que c'était hyper important pour moi de juste de bouger pour évacuer le stress qui s'accumule dans mon corps. C'est ça, de manière un peu insidieuse.
Hein. Ouais.
Puis, si je peux terminer sur une chose, ça serait de laisser le numéro de téléphone de ressources en santé mentale pour si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, c'est le 1-877-644-4545. Ça, c'est partout au Québec. 1-877-644-4545. N'hésitez pas à appeler si jamais vous avez besoin d'aide parce que, franchement, c'est pas nécessairement toujours facile. Puis, en même temps, il suffit juste d'un petit appel, hein, il suffit juste de changer son état d'esprit pendant peut-être un petit 15 minutes, puis après ça, ben, ça va beaucoup mieux.
Déjà, on sent mieux juste à parler de ça, là. On a des ressources, on est motivé, Eliane, grâce à toi. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait tellement plaisir.
Et puis sur ce, écoutez, mesdames, je terminerai cet épisode de La vie secrète des geekettes. Ce 66e, en fait, là, en ligne.
66!
J'espère vraiment qu'au 70e, on sera plus en ligne. C'est comme mon but cette année, mais on verra. Écoutez, YOLO, on verra. S'il faut être en ligne pendant un bout, on va être en ligne pendant un bout. À date, ça va quand même très bien avec Skype. Donc, mesdames les geekettes, je vous demanderai où on peut vous retrouver sur les internets. Je vais commencer par toi, Eliane.
Eh bien, moi, vous pouvez me trouver sur Twitter et puis aussi, vous pouvez me trouver sur Facebook à Eliane D. Idéatrice.
Parfait. Et puis, Chantal, je vais continuer avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
Bien, on peut me rejoindre directement par la page des Geekettes, mais je suis aussi Facebook, Chantal Lachance. Je me cache pas comme Martine. Et ma photo, c'est John McClane encore de Die Hard.
Toujours. Change-la jamais, s'il te plaît.
Parfait.
Puis, Martine, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Bien, Chantal a dit que je suis pas trouvable. Non. Sur Facebook, Martine Tilburg, qui n'est pas mon vrai nom. Mais pour vrai, la meilleure façon, si jamais vous voulez vraiment m'envoyer un message privé, ça serait via la page Facebook de La vie secrète des geekettes.
Parfait. Et puis moi-même, Fanny Grégoire, on peut me retrouver sur Instagram, Facebook, toutes ces belles plateformes, Twitter également. Mais c'est surtout important d'aller liker la page Facebook de La vie secrète des geekettes. Les geekettes, on est sur Instagram aussi quand même. On a un Twitter qui n'est pas super actif, fait que c'est pas si grave. Partagez notre contenu, notre épisode. Si vous avez aimé cet épisode pandémique de La vie secrète des geekettes, n'hésitez pas à partager. Écrivez-nous, donnez-nous des commentaires. Comment ça se passe à date? Est-ce que vous aimez ça, on aimerait ça savoir. On a un Gmail, videgeekette@gmail.com. C'est cela. Alors, on termine l'épisode et mesdames, on dit bye-bye à tout le monde.
Bye!
Bye!
Bye.
La vie secrète, 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 la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.